Donc voilà, le sujet, je vais pas revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites sur que le docteur Jabella,
Désolé.
hein,
Jamais, désolé.
c'est Jamal qui ont parlé sur, c'est-à-dire l'apprentissage du Coran, les différents sujets qui sont traités dans nos instituts. Bien sûr, je dirais un mot sur l'Institut El-Ghazali, qui est un des parmi les instituts qui sont chargés de la formation des imams et des aumôniers, créés en 1993 à l'époque du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, dans un souci de former des imams et des aumôniers en France. Et former en France. Dès le départ, remarquez que notre rôle est de former des imams et des aumôniers, donc des hommes et des femmes de terrain. On a une lourde responsabilité, une tâche qui n'est pas facile, car nous ne sommes pas dans une perspective de recherche, nous ne sommes pas une université lancée de former des chercheurs qui vont faire de la recherche sur les textes, etc. Bien qu'on a ouvert une formation de master, ça fait 2 ans, qui se lance un petit peu dans cette perspective, mais le souci primordial est. Le premier objectif de l'Institut, c'est de former des hommes et des femmes de terrain. Alors, former des hommes et des femmes de terrain, c'est-à-dire des aumôniers qui vont travailler dans les hôpitaux, surtout dans les prisons. Vous aurez un de nos étudiants qu'on a formé, je pense, l'après-midi, Abdeslam Mourache, qui travaille quand même dans une prison qu'Allah lui facilite, hein, celle d'Alençon, qui est la pire des prisons, qui regroupe tous les terroristes, hein, qui sont là-bas. Donc, une tâche qui n'est pas du tout facile, dont on travaille toujours en collaboration avec lui, et on est toujours en contact avec lui pour l'aider, hein, à faire face bien sûr, à cette mauvaise compréhension des textes et comment on peut raisonner ces gens. Bien sûr aussi former des imams qui travaillent dans des mosquées et qui sont chargés, le commun des gens vient les voir pour comprendre des textes ou bien sur des questions de fatwa, comme on dit le fatwa, c'est-à-dire les avis juridiques. Donc tout ça pour dire comment on apprend, quand on dit le Coran, c'est-à-dire comment on apprend la charia, comment on apprend le texte, comment on apprend c'est-à-dire la religion musulmane. Donc notre souci, c'est de faire comprendre et transmission. Et apprendre surtout les limites de l'imam, les limites de l'aumônier et les limites de celui qui parle au nom de Dieu. Donc les plus grands dérapages sont ici, c'est-à-dire on parle au nom de Dieu. On a entendu tout à l'heure les collègues qui m'ont précédé. Que c'est une tâche hyper, hyper difficile, qu'aujourd'hui on la banalise, et nos ancêtres qui ont eu ce grand savoir savent de quoi il s'agit. Donc je vais revenir vite fait sur les différentes formations qu'on a à l'Institut. Donc nous formons des imams pendant une période de 5 années, 4 années de théorie et une année de pratique. Nous formons aussi des aumôniers. La formation des aumôniers, elle dure 2 ans, donc ils ont tout ça en commun. Formation aussi d'études de civilisation islamique, c'est une formation purement en français, donc destinée à tout le monde, hein, musulman, non-musulman, on ne demande pas aux personnes qui viennent s'inscrire. On étudie les bases de la religion musulmane, savoir la théologie, croyance, jurisprudence, et surtout spiritualité. Et on a une formation spécifique pour la mémorisation du Coran, elle est destinée que pour les femmes. Donc on a 400 femmes, tout âge confondu, et qui c'est une formation qui est cadrée par des étudiantes qu'on a formées. On a 12 étudiantes qui ont été formées chez nous, et qui cadrent ces femmes à mémoriser le Coran surtout, et leur apprendre les bases de la langue arabe pour essayer de comprendre un peu. Donc le souci numéro un, c'est de mémoriser. Donc on a de l'âge de 7-8 ans jusqu'à... On a, une vieille qui, ça fait pas longtemps, qui est décédée, 93 ans, donc qui venait, qui apprenait le Coran. Alors, dans ces différentes formations, Le souci de l'apprentissage du Coran, de sa pratique, elle est, vous comprenez qu'elle est primordiale pour nous. Donc, dès la première année, nous n'imposons pas à nos étudiants, dans la fin de la formation, d'apprendre tout le Coran. Bon, ce qui nous intéresse, c'est comme le Coran l'a dit, c'est-à-dire d'apprendre au moins le minimum pour qu'un imam puisse quand même guider une prière et qu'un aumônier puisse quand même transmettre. Bien sûr, chaque année, donc la première année, on a les premières sourates, soit le Baqara, soit l'Al-Imran, on ne reviendra pas sur les détails. La deuxième année aussi, les deux, trois sourates qui suivent. Donc, en fin de cursus, au minimum, il faut, c'est-à-dire 15 hizb, hein, le Coran, il y a 60 hizb. Donc, 15 chapitres, c'est on veut. Alors, on a en première année la mémorisation, bien sûr avec les règles de psalmodie. On a des professeurs qui ont des ijazat, donc autorisation de transmission avec chaîne de transmission jusqu'au prophète et les compagnons. Nous insistons que tous les enseignants qui enseignent chez nous soient diplômés des universités reconnues et surtout aient des ijazat, des chaînes de transmission, surtout dans les sciences du Coran, les sciences du hadith. Alors, dans la première année toujours, on enseigne les sciences du Coran. Je reviendrai pas sur les détails qui ont été dits sur la définition du Coran, qu'est-ce que c'est que le Coran pour nous en tant que musulmans, un texte sacré révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par une sourate al-Fatiha, 114 sourates, etc. Tous les détails, la plupart parmi vous les connaissent. Mais surtout, la façon comment il a été révélé, comment les Qurayshites ont aperçu ce nouveau texte, qu'ils n'arrivent pas à situer. C'est de la philosophie, c'est pas de la philosophie, c'est de la poésie, non, c'est de la sorcellerie. Donc, il y a un problème parce qu'il leur lance un défi quand même linguistique énorme, comme c'est des gens du verbe. Donc, en même temps, ils reconnaissent qu'il est fort du point de vue linguistique, et en même temps, c'est un texte qui ne ramène pas seulement, ils ne les défient pas dans leur terrain, mais aussi ils leur ramènent des informations qui sont quand même, qui n'existent plus dans la péninsule arabie, ça a même des noms qu'on n'entend plus parler, Haman, hein, etc. Donc c'est des noms quand même que peu les Arabes qui connaissent ces noms-là, ou bien des tribus qui sont décimées, qui n'ont plus de traces. Donc le Coran ramène des détails incroyables sur leur vécu, comment ils ont été punis, châtiés, récompensés, et la relation des prophètes, comment ils ont été avec leur communauté, etc. Donc tout cela, on essaie de le transmettre à nos étudiants, bien sûr, leur apprendre ce texte qui est quand même le prendre avec une grande vigilance et remettre toujours le texte au contexte. C'est-à-dire, et apprendre toujours à l'étudiant qu'il n'est pas là pour tirer des commandements, on leur apprend comment les grands spécialistes de l'exégèse, alors je vais en revenir, hein, différentes écoles, quels sont les outils qui leur ont permis. Toujours le dérapage qui a été fait avec l'histoire, et aujourd'hui Daesh, c'est quand même, c'est pas quelque chose de nouveau. On a eu des Daesh à travers l'histoire, il faut reconnaître, c'est-à-dire les massacres, au nom du texte, ça a toujours existé. Pourquoi ? Les dérapages sont dus toujours par l'incapacité et la non-compréhension, et que c'est des gens qui n'ont pas la faculté de comprendre les textes, donc ils vont tenir ce texte-là. Donc toujours l'exemple de médecine, quelqu'un qui va pratiquer la médecine, qui peut se donner à un médecin qui n'a jamais été dans une faculté de médecine, et lui dire, voilà, je suis prêt, vous pouvez m'opérer, il n'y a pas de souci. Je pense que personne ne peut le faire. La même chose dans les sciences religieuses. Vous ne pouvez pas avoir un texte, une fatwa, chez quelqu'un qui n'a jamais eu une formation sérieuse. Aujourd'hui, les autodidactes, la majorité de ces gens-là, on ne trouve pas de savants parmi eux. Il n'y a pas de savants. Bien sûr, ils s'autoproclament calife ou savant, ça c'est clair. Mais où ils ont appris, par qui, voilà. Donc, le plus grand souci, donc, c'est des gens incapables, qui n'ont pas le niveau, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils de la compréhension du texte. Donc, la chose importante, c'est de responsabiliser ces imams, de responsabiliser ces aumôniers, de faire attention à ne pas donner des avis juridiques que ceux qui ont été dits ou bien ceux qui sont cadrés par des gens responsables, sages, savants et qui connaissent, comme l'a été dit, les objectifs de la charia, dont je vais revenir. Bien sûr, on explique comment le Coran a été révélé, la période mécoise, la période médinoise, la période mécoise qui est une période où il y avait des grands débats entre le prophète, les compagnons et les non-croyants, surtout l'argumentation par la raison et la logique. Hein, on reproche toujours au texte qu'il n'y a pas de... les salafis, pseudo-salafis, hein, qui n'ont rien à voir avec les vrais salafis. C'est-à-dire que l'argumentation par la raison n'existe pas. Mais si, elle existe dans le Coran. Dans le Coran al-Karim, Abraham, comment il a son argumentation par la raison avec sa communauté, etc. Donc le prophète aussi, il a eu des débats avec... on ne peut pas répondre à des gens qui ne croient pas au texte par un texte. Il faut leur répondre par la logique et par la raison. Donc le Coran nous apprend cette dialectique. Aussi, la compréhension des termes spécifiques au Coran. Donc on peut trouver des textes qui ne sont pas arabes, qui sont persans, que le Coran a arabisé, ou bien comme l'imam Suyuti le dit, même des textes berbères qui ont été arabisés. Donc ou bien le Coran prend en considération les différentes tribus en question et il utilise leurs mots, même des mots qui n'existent que chez les bédouins, hein, abban, hein. C'est-à-dire on peut trouver des mots qui n'existent pas chez les Khorichites, mais chez les Bédouins, comment le Coran il a été révélé, la façon. Et ensuite, l'évolution de l'écriture du Coran, très important. On apprend en étudiant l'écriture, qui est très importante. Pourquoi on prend le mot Rahmati dans un verset avec un ta ouvert et dans un autre verset un ta fermé? Et comme dit la règle, deux... façon d'écriture, on ne les prend pas en considération. Ils ont leur spécificité, la poésie arabe et le Coran. Donc ils ont leur spécificité, donc on ne peut pas prendre comme base de règle afin de l'écriture. Bien sûr, grammaticalement parlant, etc., linguistiquement parlant, oui, mais la façon d'écrire a là sa spécificité, ça, on l'apprend en étudiant. Bien sûr, les sourates, les différents sourates, on a parlé de Tafsir al-Mawdu', bien sûr, c'est-à-dire l'homogénéité qu'il y a entre les sourates, les sujets traités, comment on peut les relier, ne jamais comprendre un verset séparément de son contexte et de sa sourate, tout cela. Bien sûr, l'i'jaz al-Qur'an, c'est-à-dire le défi ou bien le miracle du Coran, dans tous ses aspects linguistiques, scientifiques, littéraires, géopolitiques, économique, tout cela est très important. On apprend aussi les différentes écoles de tafsir. Et là, on a une ouverture très large pour voir aussi le tafsir, non seulement chez les sunnites, mais aussi, très important, de voir les avis mu'tazilites et les avis chiites, les avis kharijites. C'est très important. C'est des musulmans. On ne peut pas accaparer le savoir chez nous seulement sunnite, le débat il a été toujours ouvert, c'est aujourd'hui qu'on veut le fermer, et celui qui veut fermer le débat c'est un signe de faiblesse, c'est qu'il est incapable de s'ouvrir sur l'autre et de comprendre l'autre et de le refuter, voire d'apprendre de lui. Donc les musulmans, nos grandes universités, Al-Azhar, Qarawiyyin, Zaytouna, etc., ils ont été toujours des écoles d'ouverture sur l'autre, d'apprendre sur l'autre. Les musulmans ont appris la philosophie, ils l'ont adaptée bien sûr à leur croyance, à leur foi, ils ont toujours eu des débats. Tout cela, donc, c'est en première année. La deuxième année, on continue sur, bien sûr, mémorisation, psalmodie, des sourates, Al-Imran, Nisa, etc. Mais surtout, on commence à apprendre en étudiant l'exégèse. C'est-à-dire, ce qu'on a mémorisé, on va jeter un coup d'œil de ce que les savants ont dit sur l'exégèse, c'est-à-dire la compréhension, le sens de ces versets et de ces sourates. Et là, en deuxième année, on met l'accent sur deux aspects fondamentaux, à savoir le côté juridique, mais surtout le côté spirituel. Donc l'Institut al-Ghazali, d'ailleurs, qui porte le nom de Abou Hamd al-Ghazali, n'a pas besoin d'être défini. Donc on a, c'est-à-dire la touche spirituelle chez nous, elle est très importante. Donc le tasawuf est très important chez nous. Le soufisme est une chose hyper importante chez nous, et on ne trouve pas de mots pour le remplacer. On peut dire tesquia, purification, il n'y a pas de souci, mais... les ulamas musulmans l'ont appelé tasawuf, on l'appelle tasawuf, il n'y a pas de souci. Ensuite, de quel soufisme on attend, le débat il est ouvert, il n'y a pas de souci, on peut en discuter là-dessus. Donc on a le tafsir de Ibn Ajiba, un grand savant marocain, on se base beaucoup sur son tafsir, ainsi que le tafsir de Cheikh Tahir Ben Anshour, Tanwir, bien sûr. Donc on a deux écoles de tafsir, qui sont complémentaires, parce que Ibn Adiba, dans son tafsir, il ne va pas seulement parler du côté spirituel, bien sûr, il parle du tafsir, on va dire, traditionnel, juridique, théologique, mais aussi il donne l'aspect, bien sûr, spirituel, qui était hyper important aujourd'hui. Je pense que nous, les musulmans, on a beaucoup parlé sur le côté, on parle toujours, on fait beaucoup de conférences, des débats sur le côté théologique, le côté juridique, mais notre côté spirituel, je pense qu'on a un grand travail à faire et qu'on a laissé le travail au toruq, les écoles de tariqa spirituelles qui font un travail remarquable, bien sûr, mais je pense que c'est aussi le rôle des chercheurs, des universitaires, un petit peu, de traiter ce genre de sujet et de redonner l'âme à cet islam qui a commencé à le perdre, cette touche d'amour, cette touche de spiritualité. On risque de devenir des corps sans cœur. Ça, c'est très important. D'ailleurs, le prophète le dit dans un hadith où il y aura un temps où les mosquées seront pleines et les cœurs seront vides. Donc ça donne une idée que ce côté-là spirituel, les débats vides nous ont occupés. Donc tout cela, c'est en deuxième année. La troisième année, nous mettons l'accent sur les versets qui traitent du côté juridique. Donc Tafsir al-Ahkam, on se base surtout sur le livre de Cheikh Sabouni, Tafsir al-Ahkam. On choisit des sujets bien précis qui concernent, c'est-à-dire les sujets qui concernent le mariage, le divorce, c'est-à-dire tous les contrats, d'accord, héritage, voilà. On étudie cet ouvrage, que je pense que c'est un des meilleurs ouvrages qui traite des versets juridiques, et comment les ulamas, surtout, ont tiré les commandements, et la divergence entre les différentes écoles sunnites, comment les chafiites ont tiré des commandements, comment les hanafites, ils sont basés sur quoi. Bien sûr, on a d'autres disciplines qui explique, c'est-à-dire les causes des divergences entre ces savants des grandes écoles, et qui ont formé le ciment de notre histoire juridique à travers l'histoire musulmane. En quatrième année, on met surtout l'accent sur le côté, on va dire, institutionnel et finalité du texte. Institutionnel, pour essayer de dire qu'on ne peut pas vivre dans un contexte actuel sans comprendre l'histoire des institutions musulmanes qui ont existé, et que l'islam n'a jamais eu un problème de s'adapter à des civilisations lointaines. L'islam n'a pas trouvé de problème de s'adapter, il s'est adapté à... Il était en Espagne, il est en Indonésie, en Malaisie. Pourquoi il ne va pas s'adapter au contexte français, ou américain, espagnol, portugais ou autre? Le problème, il est dans celui qui le comprend et non pas dans le texte lui-même. Donc nous mettons l'accent sur la question des finalités, les objectifs de la charia. Donc on revient toujours à trois grands imams. On a pris en considération l'imam Chatebi, qui a beaucoup écrit sur les finalités de la charia, les objectifs de la charia, et Cheikh Tahar ben Achour, mais aussi un grand savant contemporain dont on parle très peu, et on le présente en tant que savant spirituel, mais il est beaucoup plus que cela, c'est Cheikh Al-Alawi, un grand spirituel algérien, que malheureusement que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas, et qui a écrit quand même sur les bases philosophiques. Les bases philosophiques, et que de ce livre, dans ce livre-là, il n'y a aucun verset, il n'y a ni hadith, ni rien. Il parle de la philosophie en tant que musulman, comment on l'aperçoit, et là, il a traité la question des objectifs de la charia. Donc, il était avant Cheikh Tahar ben Achour, il a beaucoup parlé sur ce. C'est-à-dire, j'invite nos chercheurs un petit peu à creuser sur les travaux de Cheikh Al-Alawi sur les objectifs de la charia. Et qu'il a essayé de relier les objectifs spirituels et les objectifs juridiques. Donc nous, en quatrième année, on lance cette perspective à nos étudiants, de leur dire, il faut que tous les textes que vous compreniez, qu'on vous essaye de vous transmettre, il faut les mettre dans leur objectif que le Coran a voulu atteindre. Les Imam Chatibi et d'autres ont résumé les objectifs de la charia, la protection de la religion, des religions, attention. l'islam n'est pas venu pour protéger que la religion musulmane, mais les religions, d'ailleurs, il fait allusion à l'Al-Kitab, donc les gens du livre, toujours sont cités pour le Coran Karim. La protection de la vie, bien sûr, quand on dit la protection de la vie, la protection de l'homme et de la nature. Donc la question du développement durable, elle est traitée fondamentalement pour le Coran Karim. On trouve le mot terre, le mot des oiseaux, les animaux. Et tout le monde connaît le verset du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un, il y a une tige qui veut, c'est-à-dire creuser et c'est-à-dire mettre une plante, et que c'est la fin du monde, et il faut qu'il plante cette plante. Donc pour dire que la question du développement durable et la nature, elle est primordiale dans la charia. La protection des biens, on apprend à nos étudiants que la protection des biens, tout bien. Et on développe un petit peu ce contexte pour parler un petit peu des crises économiques aujourd'hui. Donc la quatrième année, si vous voulez, c'est de préparer l'étudiant à sortir du côté théorique qu'il a appris pendant les quatre années, qu'il a un monde réel en face de lui, où il va voir des gens en chômage qui vont lui parler du chômage, des alcooliques, de la toxicomanie, des crises économiques, crises financières. Il faut le mettre dans une réalité de terrain. Donc on ne lui demande pas quand même de parler sur ça, mais surtout dans ses prêches, qu'il parle des choses qui touche à la réalité et du vécu des gens de tous les jours. Les gens, bien sûr, ils aimeraient bien comprendre ce qui s'est passé à Pharaon avec Moïse, ce qui s'est passé à Abraham, etc. Mais ils ont des problèmes de tous les jours. Il faudrait qu'on leur parle aussi. Et quelle est la position du Coran vis-à-vis de ces problèmes de tous les jours? Bien sûr, la progéniture, on est responsable dans la descendance. On n'a pas le droit de détruire la nature au détriment de ceux qui de nos enfants et de nos petits-enfants. La dignité humaine, bien sûr, aussi, elle est très importante. Et finalement, la raison. Donc, tous ces grands objectifs de la charia, on met un grand accent là-dessus et on essaye de faire comprendre à nos étudiants qu'il faut toujours, toujours, toujours revenir et qu'on n'oublie pas que de grands savants, des poids lourds tels que l'imam Shafi'i, rahimahullah, un grand poids lourd, que l'imam fondateur d'une grande école, il a changé deux tiers de ses fatwas quand il a changé de pays. Donc, il vivait en Irak quand il est parti en Égypte. Et quand il a vu que s'il garde les mêmes fatwas, les objectifs de la charia ne seront pas les mêmes. Donc en gardant pour garder les finalités, il a changé ses fatwas. Donc toujours, toujours, toujours prendre en considération. Donc, bien sûr, s'ouvrir sur la critique musulmane, il devrait quand même écouter, respecter l'autre et accepter sa critique. Que ce soit une critique interne par des musulmans qui bien sûr, qui peuvent avoir des avis, autre que ce qu'on pense, mais aussi de nos frères, chrétiens, juifs, ou athées, ou bouddhistes. Donc c'est notre rôle en tant que musulmans, si on veut avancer, il faut accepter la critique et se changer de l'intérieur. Donc voilà, grosso modo, les différentes formations qu'on a et la façon comment on transmet le Coran. Donc responsabilité, savoir, sagesse, mais surtout respect de l'autre. Et merci.
Merci beaucoup, Abdelrahman Belmadoui.